ce serait incorrect de ma part de le présenter. Je voulais lui dire simplement que je le remerciais d'être venu une fois de plus dans notre maison et avec une telle amabilité, et que son public était composé d'enseignants, de médecins.
Bon. Merci. Eh bien, je vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter encore, malgré mon âge qui s'avance, pour parler des adolescents. Et comme vous voyez ici les plans, je veux commencer d'emblée pour vous dire que c'est là un sujet piège, un sujet où on peut dire, comme disait Mathy, de tout, n'importe quoi. C'est un sujet piège par les deux termes qui les composent, adolescent et aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Quand on dit aujourd'hui, ça implique une comparaison. Or, avec quoi devons-nous comparer? Quand on dit aujourd'hui, ça sous-entend aussi hier et demain. Ça sous-entend aussi une évolution. Cette évolution est-elle apparente, réelle, superficielle, profonde? On tâchera de le voir au cours de notre exposé, mais je crois qu'il est tendu des pièges et d'embûches. Et je vous demande donc beaucoup de bienveillance et de mansuétude pour passer l'examen. Il faut savoir aussi, et c'est plus difficile encore, si cette évolution est tendancielle ou contingente, si elle dénote un phénomène important qui va quelque part et qui part de quelque part, ou si c'est juste des oscillations. J'ai pris là un exemple un peu bête. Les jeunes de 14 ans aujourd'hui, ils aiment Renault. Eh bien, Renault, c'est sûrement contingent. Il y a 3 ans, on ne l'aimait pas, dans 3 ans, on ne l'aimera pas. Il y en a d'autres qui aiment le hard. C'est une contingence plus longue que Renault, parce que là, avant le hard, c'était les discos, avant les discos, c'était le hard rock, etc. C'était un peu plus long. On peut dire aussi qu'ils aiment la musique en bande magnétophonique. Là, c'est quelque chose de manifestement tendanciel, comme la cuisine qui autrefois était faite avec des légumes fraîches, maintenant elle est surgelée, de même la musique autrefois fraîche devient de plus en plus en boîte et vendue dans les grandes surfaces, et là il y a manifestement quelque chose de tendanciel, d'important, cet amour des musiques mécanisées. On peut dire qu'il va plus loin, ils aiment maintenant les vidéoclips. Est-ce que c'est déjà le début de quelque chose de neuf? Est-ce que dans 10 ans ils vont considérer les bandes magnéto sans vidéo, comme nous on considère les notes, là qu'on dit sur les notes de musique du Moyen-Âge qu'on voit dans les musées, possible, et au contraire, le clip va perdre son importance et on va revenir à l'audio pur en méprisant l'audiovisuel. Ça, je ne suis pas capable de vous le dire. Si on dit ensuite que les jeunes aiment toujours la chanson et la chanson contestatrice, là, on peut vraiment dire qu'il s'agit d'une tendance assez stable, au moins depuis Béranger de la Révolution française, sinon depuis le XVIIe siècle, où pourtant à l'époque on semblait aimer davantage des chants plus sentimentaux, plus amoureux, ou plus comiques, ou plus pornographiques, et pas encore autant politiques. Donc vous voyez, cette tendance et cette contingence, malin c'est lui qui saura la repérer sans aucun... lorsqu'on n'a pas de distanciation, comme c'est mon cas actuellement, pour répondre à la demande de Mme Zucman. Quel point de repère? Si nous prenons aujourd'hui en l'opposant à il y a 2 siècles, eh bien, on ne trouvera pas de différence, on trouvera des similitudes. Dans les noces de Figaro, on trouvait qu'à 14-15 ans, on est bon pour les rapports sexuels. Aujourd'hui, on les trouve de nouveau, on pourrait dire que rien n'a changé. Entre-temps, il y avait tout le 19e siècle, et moi je me rappelle encore dans le service de la Salpêtrière, où les rapports sexuels à 15 ans, ça valait les électrochocs de la part de mes maîtres. Donc, selon que vous preniez le point de repère, les noces de Figaro, ou mes maîtres à la Salpêtrière, vous trouverez absence d'évolution ou évolution drastique. Qu'est-ce que je peux prendre, moi? Est-ce pour être nous pouvons prendre comme point de départ notre jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse du conférencier? Je vous dirai tout à l'heure quelle déjus ceci peut donner. Je vous la raconterai tout à l'heure, c'est toujours le bon vieux temps, et c'est ce que nous faisons toujours lorsque nous jugeons nos propres enfants adolescents. en les comparant à notre adolescence qui était tellement mieux, plus intéressante que la leur, et on était tellement plus beaux qu'eux quand on avait leur âge. Et puis finalement, je me suis résolu, et ça va nous permettre de faire la méthodologie, donner comme point de repère ma propre pratique. C'est-à-dire quand j'ai dit aujourd'hui, jeunesse d'aujourd'hui, j'essaie très pauvrement de la comparer à la jeunesse des débuts des années 60, lorsque je commençais à travailler avec eux sur les modes professionnels. Donc aujourd'hui, pour nous, aujourd'hui, ici, ça veut dire 25 ans de distance. Le mot adolescent, c'est tout autant un mot piège. C'est un mot piège parce qu'il sous-entend une uniformisation. Mon ami Gérard Mendel, il a parlé de la classe d'âge. Quand on entend les médias, quand on les voit, moi je n'ai pas de télévision, alors je ne les vois pas, mais je sais ce qui se passe parce qu'on me le raconte. Eh bien, dans les médias et tout, on dit maintenant les adolescents sont tous pareils, c'est une classe d'âge, on peut en parler donc, comme moi, on m'a invité aujourd'hui d'en parler. Mais c'est complètement faux, c'est pas vrai du tout. Les adolescents sont très loin d'être uniformes, comme nous ne sommes pas uniformes. Il y a les différences de sexe, et j'en parlerai pas mal. Les garçons et les filles, c'est pas du tout la même chose, malgré les unisexes que l'on trouve chez les marchands de pantalons. Il y a l'âge. Il y a l'âge et les adolescents de 13-14 ans n'ont rien de commun avec ceux de 17-18 ans. Et il y a, mais ça vous le savez, je vais faire très rapide, il y a les ruraux, la ville, les milieux socioculturels, les niveaux, les lycéens, les travailleurs. Et il y a enfin, et c'est un piège très important lorsque c'est moi qui fais les topos, il y a ce qu'on appelle les normaux, qui sont disons majoritaires, et ce qu'on appelle les pathologies, qui sont, de par ma profession, ceux que je connais le mieux. Et ça pourra déjà biaiser beaucoup ce que je vais vous raconter. Alors pour cette différence, j'ai aimé une hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que chez les jeunes, tout comme chez les adultes, et ceci sinon depuis les néolithiques, mais au moins depuis les empires primitifs, je pense à Sumer, Babylone, Égypte, la mode et la tendance est donnée par les classes dominantes, par les classes possédantes et par les classes citadines et par les intellectuels. Que savons-nous de l'Égypte, que savons-nous de Rome? Nous savons surtout, sauf l'histoire tout à fait moderne qui cherche à savoir comment vivaient les bas-peuples, mais quand nous parlons de Rome, de Grèce, nous pensons toujours à la toute petite couche de gens qui étaient le haut du panier, qui savaient lire, écrire, qui tuaient Socrate, etc. Eh bien, chez nous, c'est quoi? Que chez les jeunes, c'est pareil. Et là aussi, il y aura un biais. Et quand je parlerai de ces adolescents aujourd'hui, malgré toutes mes idées, mes convictions démocratiques, de gauche, tout ce que vous voulez, je serai obligé de parler plus de ce qui est plus voyant, c'est-à-dire des lycéens, des enfants de cadres, etc. Et des Parisiens, bien entendu. Deux petits exemples amusants, un article et une remarque. Alors, un article que je viens de lire ici, écrit par nos amis de Marseille, sur les premiers rapports sexuels de l'adolescente, dans un canard qui est assez médiocre, qui s'appelle Psychologie médicale, que vous pouvez acheter si vous n'avez rien à faire. Et alors, dans cette article, on dit qu'en 10 ans, les rapports sexuels ont beaucoup, l'âge des premiers rapports a beaucoup baissé, et on compare les résultats de cette enquête avec celle de M. Simon de 1972. Seulement on oublie de dire que M. Simon a essayé, tant bien que mal, de faire un échantillonnage qui correspond réellement à la France rurale, citadine et au milieu socioculturel des parents, alors que dans ces papiers, on n'a pris que 300 étudiants du DEUC. Alors les étudiants du DEUC de Marseille, comme représentatifs de la jeunesse française âgée de l'adolescence française, c'est tout à fait comique. Un autre exemple de l'importance de ces stratifications et de tous ces biais, je suis heureux d'avoir ici mon ami Kurt Kuis, parce qu'il est concerné par ce que je vous dirai. Il y a quelques mois au CIE, au Centre international de l'enfance, je me suis permis de dire quelques mots sur quelques comportements sexuels que j'ai pu observer dans le groupe des patients, dans le groupe des adolescents dont je m'occupe. Et bien entendu, la salle m'a fait du rentre-dedans, donc mon ami Courtois, et la salle avait raison, parce que ce que j'avais dit, ça, c'était mon savoir issu d'un échantillon biaisé. Mmh. Vu que c'était des pauvres marginaux dépendants de l'assistance publique et de la V, et pas ceux qui font la mode et les loupes, donc on peut espérer que les horreurs que j'ai racontées ne vont pas s'étendre tel un cancer sous la jeunesse de France saine et belle. Alors maintenant j'ai fini avec les sujets difficiles et je vous dirai un tout petit mot sur la méthodologie. Eh bien là c'est évident que pour parler de ce sujet, je me sens tout à fait comme ce que je détestais le plus dans ma vie et que j'ai toujours essayé d'éviter et je suis piégé. C'est-à-dire je me sens comme un mandarin expert qui parle de ce qu'il ne sait pas. Vous comprenez, c'est exactement ça. Effectivement, il faut que je vous dise en toute humilité que je n'ai commis aucun travail scientifique vrai avec des critères d'échantillonnage, des questionnaires sur ce que sont les jeunes aujourd'hui et encore moins pour les comparer à un échantillonnage, un travail analogue vieux d'il y a 10 ou 15 ans. Autrement dit, ce que je peux vous raconter, ce ne sont que des impressions. Pour ceux que ça intéresse, il faut quand même dire quelques mots de bibliographie que je vous donnerai maintenant, mais d'une manière extrêmement vague. D'abord, pour répondre d'une manière qui se veut scientifique, dans la mesure où les sciences sociales peuvent être considérées comme scientifiques, ce qui est encore un problème épistémologique que nous n'allons pas traiter aujourd'hui, eh bien, il faut avoir des enquêtes avec des échantillonnages nationaux ou avec des sous-populations. Dans ce cas-là, il faut dire qu'on étudie les lycéens, les ruraux, les citadins. Il faut aussi, dans ces enquêtes, savoir si on veut tout savoir, dans lequel cas, en général, on n'apprend rien, ou si on veut se limiter sur un secteur donné de ce qu'est l'adolescent. Alors là, je ne peux que vous recommander, parmi les ouvrages un peu plus anciens, ceux de Madame Bianca Zazo, que beaucoup d'entre vous ont connu, et qui a écrit des ouvrages sur le jeune lycéen, sur le jeune apprenti, sur les garçons, sur les filles, comment ils se voyaient. C'est lui qui poursuit sa tâche actuellement, toujours rue de Lussac, c'est encore une boîte de l'éducation nationale. C'est M. Thomé qui fait aussi beaucoup de ses enquêtes sociologiques. Ce n'est pas le lieu ici de les critiquer, c'est sûr, je vous dirai seulement un mot, que ce qu'il ne faut jamais oublier dans ses enquêtes sociologiques, c'est qu'il ne montre qu'un aspect de la réalité psychologique, c'est-à-dire ce que les jeunes veulent bien dire à un monsieur ou à une dame inconnue que l'on appelle enquêteur. Et que nous, on a fait quelques expériences dans ce sens-là, dans notre centre, où on a vu que les réponses des jeunes sur les mêmes questions, varient beaucoup selon la personne qui les pose, si c'est un enquêteur sociologue, si c'est un médecin ami, si c'est un éducateur détesté, ou le contraire, bien sûr, les réponses sont variables. J'ajoute à ces travaux très sérieux ceux de mon amie Madame Davidson, qui ont un intérêt d'être très volontairement limités, et ce sont des travaux dans le genre les lycéens face à la drogue, les lycéens face à l'alcool, les jeunes face au suicide, etc. C'est des choses très intéressantes. Et puis enfin, le rapport Simon, que beaucoup d'entre vous ont dû lire tout en les cachant devant vos enfants, qui raconte la sexualité des Français en 1972. Et donc la méthodologie est tirée du célèbre, mais déjà préhistorique, rapport de Kinsey aux États-Unis. Eh bien moi, j'ai malheureusement aucun travail de ce genre à vous présenter aujourd'hui, j'ai pris de m'excuser, et je ne peux procéder qu'en... Je me suis défini là d'une manière assez prétentieuse, clinicien réputé intuitif et cultivé. Si je n'étais pas réputé intuitif et cultivé, ben vous ne m'aurez pas invité, donc je ne... Mais ceci est à la fois bon et à la fois mauvais, parce que c'est évident que tout ce que je vous raconterai dans la deuxième partie est entaché d'emblée de biais personnels. Alors je vous donnerai, et ce sera ça ma façon de me présenter, quelques repères de ma méthodologie telle que je l'ai trouvée il y a quelques jours depuis que je pense sur certaines sommes que je dois faire. Eh bien, mes repères, mes sources, si vous préférez, sont tout d'abord ma propre adolescence. C'est évident, quand on m'a dit adolescent aujourd'hui, j'ai eu tout de suite la tendance à me comparer avec moi-même. On est comme ça, que le premier qui n'a jamais péché ne jette la première pierre. Eh bien, là, j'ai tout de suite vu combien je peux faire des biais effroyables. À savoir, faisant d'une manière spontanée cette comparaison pour voir ce qui se passe avec un de mes enfants, et j'ai trouvé que j'étais vraiment infiniment mieux que cet enfant, j'étais vraiment infiniment mieux que cette fille, aussi bien par rapport à mes rapports avec le monde environnant, avec l'école, avec l'autonomie. Bref, j'ai trouvé que j'étais super génial et que ma fille est une super cloche. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, c'est pas possible, c'est quand même ma fille, je suis vraiment ignoble. Alors j'ai fait un retour sur moi-même extrêmement douloureux, pas aussi douloureux que Freud en a fait parce que je ne suis pas Freud, mais quand même un retour très douloureux. Et je me suis aperçu qu'alors que ma pauvre fille a 13 ans et demi, moi pendant tout le temps, je la comparais à moi-même âgée de 16 ans et demi. C'est un tout petit biais, mais ça fait tout un monde. Et puis je me suis aperçu qu'effectivement la période de 13 ans et demi, 14 ans était complètement refoulée dans ma pauvre tête parce que je n'étais pas très fier de cette période et je lui suis retrouvé à peu près tous les ignobles défauts que je trouve à cette pauvre fille et dont je me suis débarrassé après à 15, 16, 17 ans. C'est qui pour les parents qui ont les enfants de cet âge pour qu'ils apprennent à les supporter avec quelques patience. Avec quelques patience, ce qui n'est pas toujours facile. Donc ça, c'est ma première source, c'est moi-même, avec tous les biais que ça comporte. La deuxième source, tout aussi biaisée et personnelle, c'est que le Seigneur a bien voulu me donner deux enfants, donc une est née en 53 et l'autre à 71. Alors je les compare, toujours avec la même tendance, ce qui était avant, c'était mieux, ce qui est maintenant, c'est pire. Et il faut essayer de redresser. Mais ça donne quand même, le fond de mon exposé va être certainement motivé par ce genre de biais subjectifs et non scientifiques. Ce qui est déjà plus large comme échantillon, ce sera ma consultation que j'ai depuis 22 ans et où je consulte les adolescents qui veulent bien venir m'écouter ou me parler ou dialoguer avec moi. Alors là-dessus, vous pouvez me dire tout de suite que là, il y a de nouveau un biais important parce qu'il s'agit des pathologies. Si ces adolescents veulent faire la démarche ou qu'ils sont obligés de faire la démarche jusqu'à l'hôpital Saint-Antoine ou la Rivoisière, si ses parents, si leurs parents acceptent de payer 175 francs, remboursés 125, ce qui est le tarif de la neuropsychiatrie hospitalière, eh bien, c'est qu'ils sont pathologiques. Mais là, je peux quand même vous rassurer là-dessus que ce biais-là est moins grave qu'on aurait pu le supposer. Parce qu'il est évident que sur ces 22 ans d'adolescent, heureusement pour ma réputation, l'énorme majorité n'était pas pathologique. Et c'est ça qui explique la très grande force de mes succès thérapeutiques, parce que c'était quand même surtout des adolescents non pathologiques qui faisaient leur crise d'adolescence, qui faisaient leur crise d'opposition, qui avaient des difficultés passagères, et il y en avait parmi eux qui n'avaient vraiment rien, mais que leurs parents étaient assez snob pour montrer leur adolescent au docteur Tomkiewicz. Et ils m'ont fourni beaucoup de matériaux sur l'adolescent normal. Donc, cette consultation n'est pas si pathologique que ça, et ce sera probablement la source, quand j'essaie de m'analyser, presque principale de ce que j'essaierai de vous dire. La deuxième source, c'est le foyer de Vitry où j'ai travaillé pendant 26 ans, et là, le biais est très fort, c'est un foyer d'adolescents, qui était à l'époque âgé, jusqu'il y a 3 ans, âgé de 13 à 19 ans, où il n'y avait que des garçons, sauf un intermède qui m'a fait connaître pendant 3 ans des filles de même âge et tout aussi perturbées, déstructurées et assistées sociales. Alors c'est donc le travail dans ces foyers de jeunes très difficiles, délinquants, toxicomanes, tout ce que vous voulez, et les discussions des types que j'ai pu avoir dans ces foyers m'ont beaucoup aidé. Et ce qu'il y a de nouveau actuellement, ce foyer s'est transformé et nous travaillons d'une manière avec des gosses, garçons et filles, mais plus jeunes, 11, 12, 12 à 15 ans. Donc là, ça, à la fois, ça m'a enrichi énormément, et c'est une joie à mon âge de pouvoir s'enrichir encore intellectuellement, mais ça fait aussi des possibilités, des biais dans les comparaisons, parce qu'on a toujours tendance de comparer les gosses actuels, tout comme les parents, avec les gosses que nous avons eus il y a 5 ans, tout en oubliant que nos gosses il y a 5 ans avaient 16 ans en moyenne et que nos gosses actuels ont 13 ans en moyenne. Bon, ben voilà, c'est la fin de la première partie et présentation, je crois, elle est comprise dedans. Maintenant, vous savez qui je suis et, comme on dit, d'où est-ce que je pars. Alors maintenant, voyons les quelques sujets dont je voulais vous entretenir. Alors le premier, ça va être corps, sexualité, parents. Alors on peut commencer par les parents. Eh bien, pour les parents, qu'est-ce que j'ai pu constater? Alors, et là aussi, je suis vraiment pas sûr s'il y a une vraie évolution. Ah, j'ai oublié quand même les plus mignons, les plus gentils. Ma dernière source, mais je vous la lirai presque telle quelle, c'est une adolescente avec qui j'ai passé une heure hier dans un café et qui fait partie de ces fameuses adolescentes normales qui croient qu'elles sont en psychothérapie avec moi. Elle a 17 ans, je connais bien sa famille, et elle a bien voulu accepter une petite interview non directive en vue du topo d'aujourd'hui. Et cette interview était assez intéressante, mais je vous la lirai peut-être telle qu'elle comprime, quoi. Alors donc, pour les parents, les biais que je crains, c'est que je me demande toujours, est-ce que ce sont les enfants qui ont changé? Est-ce que c'est les parents qui ont changé? Est-ce que c'est leurs relations qui ont changé? Ou est-ce que c'est moi qui ai changé depuis 20 ans? Parce que quand je me rappelle comment j'étais il y a 20 ans, eh bien, j'étais à l'époque tellement contre mes maîtres et contre mes patrons qui étaient identifiés à des parents psychorigides et punitives que je me suis très rapidement identifié à l'adolescent révolté. Et que je voyais tous ces rapports jeunes parents sur les modes uniformes, univoques, stupides, j'avoue, d'oppression des parents à enfants et de révolte justifiée de la part des enfants. Cette attitude, visiblement due à l'absence d'une psychanalyse, didactique, merci pour le mot. Cette stupidité due manifestement à l'absence d'une psychanalyse didactique m'a valu beaucoup, beaucoup de déboires avec mes patients et l'âge aidant, j'ai fini par comprendre que c'est beaucoup plus compliqué les relations entre les adolescents et les parents. Alors donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui est aussi, je ne sais pas si c'est moi qui ai changé, c'est-à-dire le point de vue de l'observateur qui est devenu plus fin, plus nuancé, ou si c'est vraiment la vérité. Alors voilà ce que je constate. 1. C'est que l'opposition est devenue une obligation. C'est-à-dire qu'il y a une apparence de liberté beaucoup plus grande avec les parents, et il y a une apparence de conflit permanent, beaucoup plus fréquent, qui devient massif, beaucoup plus bruyant. Et comme m'a exprimé une des petites adolescentes, après une réunion, 14 ans pour être précis, après une réunion d'un soviet de gosses de son âge, ils sont arrivés eux-mêmes à une conclusion de groupe, et bien tous ceux qui entre 13 et 16 ans n'emmerdent pas les parents, c'est des dégénérés, on n'en tirera jamais rien de bien après. C'est curieux combien ces gosses qui refusent toute culture, qui refusent toute littérature française, on retrouvait spontanément les paroles d'Anatole France qui en 1914 avait dit celui qui n'est pas anarchiste à 18 ans devient un salaud à 40 ans. Eh bien maintenant, autant que dans notre jeunesse, avoir une bonne entente avec les parents, c'était la règle, la mauvaise entente était culpabilisée, les psychiatres étaient alliés des parents prêts à hospitaliser des gosses qui par exemple refusaient de se marier avec le choix des parents, et bien maintenant c'est le contraire. Les enfants pensent qu'ils ont droit, c'est pas les droits, c'est pire, qu'ils ont le devoir d'être en opposition avec les parents, qu'ils ont le devoir de les faire chier, pour parler un peu grossièrement, et de les emmerder. Et comme on dit mes petits copains là des 14 ans, ils pensent, parce qu'on verra s'ils ont raison ou non, qu'à 16-17 ans ça doit s'arrêter. Ça va de 13 à 16 ans. Ça c'est le point de vue de ceux qui ont 14 ans, mais je n'ai pas interrogé ceux qui ont 16. C'est par contre que m'avait dit dans ces domaines la jeune fille hier, ça m'a paru très intéressant et je tiens à vous le lire, c'est qu'avec les parents, ils ont moins de tabous. Il y a plus d'enfants qui tutoient leurs parents, qui appellent leurs parents par les prénoms qu'il y a 20 ans. Encore qu'il reste une minorité très, très stricte. Ils disent tous plus facilement mère. Là, c'est plus moi qui parle, c'est la jeune fille. Les différences entre eux et les parents leur semblent moins accentuées et le respect semble manquer. Mais, ajoute cette jeune fille, et c'est ça qui m'a paru extrêmement important, elle a dit non, on les aime plus sûrement qu'on les aimait il y a 25 ans. Et ça, ça m'a paru très intéressant. Vous allez me dire encore que je fais du biais, que cette jeune fille m'a dit cette phrase parce que depuis un an, je poursuis avec elle une bistropsychothérapie et qu'il y a un an, elle disait tout dépendre de ses parents, alors que maintenant, elle constate qu'elle les aime, ce qui vaut quand même beaucoup mieux. Mais parfois, je me dis que ces enfants, ces jeunes, ont quelque part vu Freud qui disait qu'on ne peut pas aller vraiment mieux tant qu'on ne s'est pas réconcilié avec les images parentales. Et que, tout en faisant l'opposition, tout en grognant, tout en injuriant, tout en étant manifestement beaucoup plus grossier qu'il y a 20 ans, eh bien, tout au fond, ils sont aussi nourrissons qu'il y a 20 ans, ils sont aussi aimants, et ils savent quelque part, là je parle de la majorité, je ne parle pas de la pathologie bien sûr, et ils pensent quelque part que cette réconciliation viendra. Là où c'est important pour nous autres professionnels, et il vaut mieux vous parler sur le plan pédagogique de ces bêtises que de ces succès, c'est que dans la mesure où nous, les professionnels, nous oublions qu'il faut s'identifier ni aux parents, ni aux enfants, et qu'il ne faut jamais prendre en monnaie comptante ce que disent les uns et les autres au moment de la crise, eh bien, on peut faire des grosses bêtises et qu'il faut vraiment méditer ce que je viens de dire ici sur les rapports avec les parents. Maintenant, passons sur les corps. Alors pour le corps, j'ai eu l'impression, ça c'est une impression que j'ai à la suite de... Là, la source, si vous voulez, c'est pas tellement ma consultation, c'est le foyer. C'est le foyer, c'est-à-dire ces gosses un peu marginaux. J'ai l'impression que les problèmes que nous avons décrits il y a 20 ans déjà, sous le nom un peu prétentieux de dysmorphophobie, et qu'on pourrait exprimer plus simplement la peur des clés, les troubles de l'image corporelle, l'insuffisance de l'image de soi, etc., eh bien nous avons l'impression que ces troubles vont en s'aggravant, qu'il n'y a aucune amélioration, que les gosses d'aujourd'hui se croient encore plus moches que leurs aînés, alors que nous les vieux, nous sommes émerveillés de les voir beaucoup plus beaux, beaucoup mieux nourris, il n'y a plus de petits rachots qu'on voyait encore après la guerre, et Courtois, qui est médecin somaticien, va probablement m'approuver en disant qu'ils ont en gros meilleure taille, meilleur poids, meilleure peau, meilleur os, et que les filles sont plus belles, parce que tout le travail, le boulot des coups de cuisse, mais c'est évident que quand on les regarde comme ça, ils sont vraiment plutôt plus beaux, et quand on les écoute, ils sont plus moches. Alors, est-ce que c'est, comme beaucoup d'esprits chagrins le pensent, est-ce que c'est vraiment la conséquence perverse de la télévision, des réclames du cinéma, j'en sais rien. Tout le monde vous l'a répété, vous l'avez entendu autant que moi, je ne veux pas, m'apesantir là-dessus, mais c'est une hypothèse qu'il y a. Il y a peut-être d'autres sûrement plus profondes que je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui, peut-être de la discussion, il y en a qui jailliront d'autres hypothèses. Ce que je constate, c'est que ce corps, bien que bien nourri et sain, est encore plus craint, mal accepté. Nous verrons en parlant de Luc une des raisons encore pourquoi ce corps est si mal accepté. Passons maintenant à la sexualité. Eh bien, d'abord la sexualité fantasmatique, c'est-à-dire ce qu'ils ont dans leur fantasme. Alors là, je pense franchement qu'elle n'a pas changé. Que là, que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier, que ce soit dans le Sumer ancien, mais là nous n'avons pas de documents, hélas, mais au moins au temps de vie, c'est-à-dire déjà 2000 ans, ou au temps du Cantique des Cantiques, ce qui fait 2000 ans, ça n'a pas changé. Et la jeune fille d'hier me l'a exprimé d'une manière que je trouvais charmante, que je me suis dit, il faut que je vous la lise comme il faut. Il dit, maintenant tout a changé, avant ceci n'avait pas d'importance, maintenant ceci compte, je vous dirai quoi, mais au fond tout ça, ce n'est que superficie. Et au fond, nous avons tous les mêmes idées. Quand on est à l'adolescent, on pense à l'amour et on a toujours pensé à l'amour. Et ça, je crois que c'est profondément vrai. Elle n'a pas dit sexualité, elle n'a pas dit rapport sexuel, ça fera plaisir. Et elle a dit penser à l'amour. Et je pense que quand j'ai écouté l'autre jour les Noces du Figaro, avec cet air merveilleux du petit patapouf, comment il s'appelle, chérubin, avec l'air de chérubin, et je me suis promis qu'au prochain congrès sur l'adolescence, il faudra donner cette musique et cet air avec les traductions dans les livrets, absolument comme symbole du congrès sur l'adolescence. Ce qu'on fera difficilement quand on connaît les caractères compliqués de la plupart des psychiatres. Donc, au niveau des fantasmes, ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, au niveau des comportements, il y a manifestement des changements et on peut risquer l'hypothèse, avec toute la prudence qui s'impose, que ces changements sont tendanciels. À savoir, prenons la masturbation. Eh bien, la masturbation est infiniment moins culpabilisée qu'autrefois. Et c'est bien embêtant pour les psychiatres d'adolescents. Quand vous lisez, par exemple, mon maître... Le professeur Mal, le docteur Mal, qui était pratiquement le seul psychiatre digne de ce nom dans les années 50, en ce qui concerne les adolescents, eh bien Mal, il parle des miracles qu'il arrivait à faire en déculpabilisant la masturbation d'adolescents. Il parlait de ces psychothérapies brèves, d'inspiration analytique, mais tout à fait contraire à la technique analytique, et il disait que le gros coup, c'est la déculpabilisation de la masturbation. J'étais bon élève de Mal, et je vous assure que j'ai eu plein de succès en 58 et 68, disons, en faisant cette déculpabilisation de la masturbation. Et puis maintenant, ça ne marche plus du tout, parce qu'ils ne se sentent plus coupables, mais ils sont toujours perturbés. Et du coup, de cette culpabilité masturbatoire était peut-être moins comme les pensées naïvement, une cause de perturbation, mais qu'elle n'était qu'un des aspects de perturbation en rapport avec l'époque d'autrefois où c'était des modes d'avoir une masturbation culpabilisée, c'était pendant 150 ans depuis les pères Tissot jusqu'au Larousse médical 1963, on a raconté de telles horreurs sur la masturbation que les jeunes l'ont intégré. Maintenant, c'est fini. Et nos amis marseillais parlent que 85% des étudiants de deux, je l'ai dit ici, ne se sentent plus coupables, ont eu une activité masturbatoire non culpabilisée. Mais ceci reste encore tout à fait faux en ce qui concerne les filles. D'abord, quant au comportement, toujours d'après les Marseillais, il n'y a que 50% des filles qui se masturbent. Je parle ici des rapports Kinsey pour comparer, mais par contre, ce que nous constatons, c'est que chez elles, l'acte est encore beaucoup plus culpabilisé, et pour en parler, pour sortir de ces inhibitions, pour en parler, c'est encore un tout autre travail, et autant que lorsque nous discutons avec les garçons, la masturbation à la fois devient un sujet facile et par conséquent sa valeur thérapeutique elle a beaucoup baissé, chez les filles c'est encore un gros morceau mal influit qui arrive. Peut-être que les amis gynécologues femmes y arrivent mieux que nous les psychiatres hommes, mais en tout cas c'est pas du tout, il n'y a pas du tout encore ici une égalité de sexe. Maintenant quand il s'agit par exemple de sortir, comme on dit ces fameux mots sortir, eh bien l'âge de sortir c'est évidemment plus précoce et l'âge des rapports sexuels est plus précoce. Là il y a certainement quelque chose de tendanciel depuis 20-30 ans et je vous rappelle, je l'ai déjà rappelé au CIE, comment je me suis fait refuser par mon ami Copernic en 1969 un article dans le concours médical parce que j'ai osé dire que il y a une tendance dans la banlieue sud de Paris à l'abaissement de l'âge des premiers rapports sexuels. Ce refus de Copernic est passionnant sur le plan sociologique parce qu'il montre comment en 69, même un garçon aussi intelligent que Copernic était encore esclave des schémas, et il me l'a dit textuellement à l'époque, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais en tout cas ça risque de faire baisser la vente du concours médical et choquer nos lecteurs. Eh bien, c'est sûr que depuis le rapport Simon, depuis la traduction du rapport Pincey, même les yeux les plus sclérosés, c'est pour lèche les babouines à l'idée que les rapports sexuels sont devenus d'âge plus bas. Et là aussi, manifestement, il y a un changement d'une obligation, on saute dans l'autre obligation. Autant que la virginité était encore une obligation il y a 25 ans, eh bien, actuellement, la virginité devient une tare, au moins dans ces milieux qui donnent dans les milieux parisiens, intellectuels ou banlieusards, peut-être pas encore dans les milieux ruraux. J'ai déjà raconté, je me rappelle la première fois que je suis tombé là-dessus, avec cette idée, mais ça m'a paru complètement pathologique, et je crus que la jeune fille est schizophrène. J'ai travaillé un jour au café en face de la cité universitaire. L'événement remonte à 1967, donc 10 mois avant mai 68, et je lisais un bouquin de Baruch, donc un bouquin psychiatrique. Là-dessus, une très charmante jeune fille, qui avait à l'époque 19 ans, commençait à me faire des yeux, puis finalement elle était assise à côté de moi, et la première question qu'elle m'a posée, mais vous êtes psychiatre? Alors quand j'ai répondu timidement oui, elle m'avait dit, est-ce que vous croyez que c'est normal d'être encore vierge à 19 ans? Alors moi je pensais qu'elle est complètement folle, mais elle m'avait bien expliqué que tous ses copains, toutes ses copines se moquent d'elle parce qu'elle est encore vierge à 19 ans, elle n'avait aucune envie de perdre sa virginité, mais elle en était fort culpabilisée. Et bien en 67 pour moi c'était une hirondelle, et puis dans les années 70 et maintenant, des filles qui ont 19 ans mais qui sont vierges, je dis ça déjà comme un début de maladie. Alors là encore, qu'est-ce qu'en disent nos amis marseillais? Eh bien, nos amis marseillais disent que, pour M. Simon, donc 1972, l'âge moyen des premiers rapports sexuels était 21,5 ans chez les filles, mais là il y avait la France rurale, et 19,2 ans chez les garçons. Or, dans leur échantillon, l'âge moyen était 17 ans chez les filles, et 16,9 ans chez les garçons. Mais l'échantillon, comme je vous rappelle, c'est le DUG de l'Université de Marseille. Alors, il donne encore ce qui est tout à leur honneur sur le plan statistique. Ils ne se contentent pas de donner l'écart type de leur courbe, mais ils donnent l'âge minimum et l'âge maximum, en nous apprenant que l'âge minimum était 13 ans chez les filles, 11 ans chez les garçons, et l'âge maximum 27 ans chez les filles et 22 ans chez les garçons. Tout en ajoutant que dans leur échantillon, il y avait 16% des vierges et 5% des garçons qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel. En disant après dans les commentaires que ça devient vraiment de plus en plus rare. Ça c'est donc pour les chiffres. Il faut dire à propos de cette sexualité, on a l'impression, et ça j'en parle ici dans le chapitre du corps, que même les dates de l'adolescence sont en train de changer. Et que là, il y a quelque chose de neuf. Si sinon dans la réalité physiologique, mais au moins dans l'image où que le jeune se fonde de même. Tout d'abord, l'âge baisse. Le début de l'adolescence baisse si on prend comme source, non pas des critères médicaux, comme les premières règles qui baissent, comme vous savez, de 3 semaines tous les 10 ans, et je ne sais pas scientifiquement actuellement si cette tendance continue et si elle s'est arrêtée depuis 20 ans, là j'ai aucune idée. Peut-être que vous puissiez le savoir mieux que moi, mais par contre, ça baisse nettement dans l'esprit des gamins, et alors qu'à l'époque, il y a 20 ans encore, un gosse de 12 ans, il acceptait volontiers les termes, l'appellation d'enfant, et bien actuellement, les mots préadolescents, ça ne prend pas chez eux, c'est un mot pour des vieux, pour nous, et bien actuellement, ils réclament leur label d'adolescent dès l'âge de 12 ans, voire dès l'âge de 11 ans. Et de même, mais là peut-être je suis biaisé par ma consultation hospitalière, la fin de l'adolescence, elle aussi est prolongée. Et on voit maintenant des garçons qui me demandent des certificats pour les services militaires, qui ont donc 18 ans, des jeunes filles de 19-20 ans, et qui se vivent adolescents et qui ne sont pas du tout vexés qu'on les appelle adolescents. C'est assez passionnant parce que lorsque M. Giscard d'Estaing avait, comme vous vous rappelez, abaissé la majorité de 21 à 18 ans, moi j'étais le premier à applaudir à cette mesure, cette mesure nous a paru maturante à des gens comme moi, et je n'étais pas le seul. Elle a paru maturante, elle a paru assez positive. Les seuls qui grognaient contre cette mesure, c'était les gens de l'aide sociale à l'enfance qui étaient obligés 3 fois plus tôt de donner les fameux coups de queue de la mère macaque pour rejeter leurs protégés dans les néants de la société non protégée, non assistée, mais on pensait que ça va changer quelque chose. Or, moi j'ai pas l'impression que ça a changé quelque chose et qu'ils se sentent bien adolescents dans le sens teenager américain de 10 à 20 ans. Alors que je me souviens, dans le premier papier que j'avais écrit sur l'adolescence avec le professeur Duchet, c'était, on a parlé d'adolescence de 12 à 17 ans, donc beaucoup plus, une période plus courte, alors que maintenant en France, tout le monde semble accepter la définition 10-20 ans, et c'est surtout eux-mêmes, les intéressés eux-mêmes, qui l'acceptent. Donc, cette baisse de l'âge où il se considère adolescent explique certainement, en même temps que la contraception probablement, la baisse d'âge des rapports sexuels. Ce que nous avons constaté aussi, et j'en ai parlé au CIE, c'est ce que j'ai marqué, la plus grande pugnacité des filles, la plus grande pugnacité sexuelle des filles. Et c'est au moins dans les milieux que je connais là en banlieue, mais pas seulement parce que j'en ai eu des échos également dans mes consultations, eh bien les filles sont plus du tout comme étaient leurs aînés des années 50 et des débuts des années 60, qui étaient là toujours passivement à attendre de se faire séduire par les gars, par le mâle, mais qui au contraire foncent, séduisent, ou comme on décrit même Christin, donnent des coups de coude, des coups de cuisse, des coups de genou, bref, tout ce que Stendhal, par exemple, considérait comme qualité sexuelle typique liée au sexe mâle, vous rappelez, prendre la main, donner un coup de genou sous la table, tout ça, vous n'avez qu'à lire de l'amour de Stendhal, c'est plein de choses comme ça, eh bien actuellement, de jeunes filles de 12, 13, 14 ans, dans les CS, dans les lycées, font ça très volontiers avec leurs camarades, qui piquent des rougeurs effroyables, comme des écrevisses, et qui sont extrêmement gênés, et qui viennent pleurer chez leur psychiatre, chez ces filles sont vraiment bizarres, étranges, et je ne dis pas les gros mots grossiers qu'ils utilisent, parce que Courtois m'engueulerait après. Mais, une fois quand on a compris cette inactivité des filles, une fois quand on a vu que les apparences vont vers une certaine uniformisation des sexes, eh bien dès qu'on creuse un peu plus loin, on voit que tout ça c'est pas vrai, que tout ça c'est de la blague, et que quand on va plus loin, la différenciation sexuelle, l'inégalité entre l'homme et la femme, continue et persiste comme avant, et à mon avis, n'ont pas beaucoup changé. C'est-à-dire Pour les filles, les premiers rapports sexuels, c'est ou bien un devoir ajouté, ou bien quelque chose pour faire plaisir. Leur taux de déception est 4 fois plus grand que chez les garçons. Elles attendent beaucoup de l'affectivité, elles attendent l'amour, alors que pour les garçons, tout comme pour nous autres, les premiers rapports sexuels, c'est surtout à valeur narcissique, c'est pour se montrer à soi-même qu'on est un homme. Alors que la fille veut montrer aux autres qu'elle n'est plus vierge. Donc il y a toujours là une différence. Il est évident que, et là je fais un peu l'autocritique par rapport à ce que j'ai dit au CIE, que cette coupure entre la sexualité et l'affectivité, dont j'ai raconté au CIE qu'elle apparaît même chez les filles, et je maintiens la vérité de ce que j'ai dit, le sexe. C'est sûr que pour la fille, les rapports sexuels sont plus encore un signe de maturation, alors que les garçons cherchent encore plus, comme toi d'ailleurs, la satisfaction immédiate et une espèce de besoin affectivement sexuel. D'ailleurs, puisqu'on en est à l'égalité sexuelle, eh bien, il faut dire tout de suite qu'elle me paraît toujours un leurre, malgré les apparences, pas seulement en ce qui concerne la sexualité et l'amour, mais ça nous permettra de passer à d'autres chapitres, mais ça me paraît aussi un leurre en ce qui concerne, par exemple, le travail, la profession, les exigences et les pressions. Les parents continuent à exiger moins des filles que des garçons. C'est pour ça que j'ai à ma consultation plein de garçons tout à fait normaux. Donc la seule maladie est l'incongruence entre les désirs de leurs parents et leur réalité, alors que pour les filles, on a beaucoup moins de consultances comme ça pour les filles. Donc la pression sur les filles est beaucoup moins forte que sur les garçons. Cette fameuse crainte de l'avenir sur laquelle nous arriverons, elle est encore plus forte chez les garçons. Autre chose où l'égalité des sexes reste un leurre, c'est par exemple la débrouillardise dans la délinquance. Vous allez dire que c'est vraiment fait que ça allait être noir pour penser à ça, mais ça compte quand même comme un indice de la maturité. Il n'y a pas de doute qu'un garçon de 14, il y a beaucoup plus de gosses de garçons 14-15 ans qui savent fuir devant les flics, qui savent braquer, qui savent voler, bref, qui savent se démerder dans la vie sur le mode marginal, que des filles qui tout au plus se contentent, comme il y a 20 ans, de l'attitude de la star du groupe ou du repos des guerriers, etc. Finalement, dans toute ma pratique, je n'ai connu qu'une seule nana de 16 ans qui travaillait avec une mitraillette et qui braquait. Il faut dire que les pronostics étaient excellents et je suis toujours resté lié avec elle. C'était là que je me suis dit qu'à 16 ans, quand on est une fille d'un milieu opprimé, il vaut toujours mieux braquer les autres que se suicider du point de vue pronostique. Ceci reste quand même très très rare. De même, la sexe-ratio très puissamment biaisée sur les garçons reste encore vraie pour la cigarette, pour l'alcool, pour les drogues. C'est sûr qu'il y a ici une certaine tendance vers l'égalisation, mais il ne faut pas que cette tendance vers l'égalisation nous cache qu'il y a encore 10 que les ratios, par exemple, si vous prenez les drogues, ça fait un sur 8. Il y a 8 garçons pour une fille à l'adolescence, et pour les cigarettes, c'est un peu moins, mais ça fait quand même 1%, etc. Donc, on est loin de l'égalité sexuelle. Maintenant, voyons un peu les problèmes de groupe. Alors, sur ces problèmes de groupe, il y a des choses très passionnantes que j'ai apprises avec ma jeune fille hier soir. À savoir que pour elle, la première caractéristique des adolescents d'aujourd'hui, c'est que la vie est plus contraignante qu'il y a 20 ans, qu'elle a entendu parler il y a 20 ans. Par exemple, elle disait qu'il y a 20 ans, telle qu'elle imaginait, disons, la jeunesse de 68, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et actuellement, on ne peut plus faire ce qu'on veut, il y a une série de modes contraignants et on pense à son look. Je vais vous écrire pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce terme. Et c'est évident que c'est un mot, c'est un néologisme que j'ignorais encore il y a assez peu de temps, est-ce fou, ce qu'il arrive souvent dans le langage de ce jeune, tu as du look, tu n'as pas de look, le contraire de look, puisque vous êtes souvent enseignant, vous aimez la grammaire, le contraire de look, c'est ringard. Ça ne veut pas dire non-look, mais ringard. Ça fait le couple, l'opposition dans ce langage de jeunes, look et ringard. Donc cette histoire de look est devenue pour eux extrêmement contraignante et ils ne peuvent plus s'habiller comme ils veulent. Ils ne peuvent s'habiller, ils ne sont pas tous habillés de la même manière parce que, heureusement, plus que Dieu, il y a beaucoup de looks. Il y a le look hard, il y a le look disco, il y a le look téléphone, il y a le look net, il y a le look... Il y a même le look ringard qui peut être là pour montrer son opposition au groupe et qui va faire son look ringard. Mais ce qui est important, c'est et qu'on ne voyait pas il y a 20 ans chez les lycéens, c'est qu'actuellement une jeune fille ou un jeune garçon, tel que les élégantes des années 1900, refusera d'aller à l'école avec un vêtement qui risque d'attirer les colibets de ses copains et de ses copines. Alors qu'il y a 20 ans, au contraire, chaque individu apportait un peu de, pas chaque, mais beaucoup d'individus, apportaient un peu de, mettaient leur fierté dans le fait de ne pas être soumis à aucune règle et d'aller à l'école comme ils voulaient, soit avec une cravate, soit débrayé, soit avec une jupe longue, soit avec une mini-jupe, etc. Donc on a l'impression, mais c'est peut-être là aussi qu'une impression, que l'empreinte des modes, l'empreinte des schémas que la société envoie à ces jeunes est devenue plus forte encore qu'il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'elle m'a dit encore? Elle m'avait dit... Alors c'est ce qu'elle m'a dit aussi très important, parce que moi j'ai fait l'idiot avec elle, je lui ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire un look? Je voulais voir la définition. Et bien elle m'a dit le look ce n'est pas ce que l'on est, mais c'est l'allure que l'on veut se donner. Et elle m'a dit très gentiment que si tu prends le punk il doit être méchant, parce que le look ça dépasse de loin la mode. Alors elle connaît, puis j'en connais aussi d'ailleurs, elle connaît, nous connaissons des punks qui sont des gosses aussi gentils que vous et moi, en tout cas que moi, vous, je ne vous connais pas, et qui se dorment et qui font un effort terrible pour paraître salaud, pour paraître méchant, pour paraître brutaux, pour paraître violent, parce que dans la mesure où ils sont entrés dans la famille des punks, eh bien, il faut qu'ils soient méchants. Et ça peut durer un an, deux ans, et vous voyez, les parents, devant ces cas-là, les parents sont bien embêtés, et je pense que là, l'avantage de l'âge vieux, c'est qu'on peut se dire que ça peut se passer. Ce qu'on disait autrefois, la jeunesse se passe. Donc ces looks eux-mêmes deviennent plus individualisés, plus sectorisés. Ça c'est donc pour les groupes, c'est que les conformismes, voilà, pour définir ça d'une manière un peu plus claire, les conformismes des groupes paraît actuellement très renforcé d'une certaine façon, mais ceci est peut-être nuancé par la une certaine multiplicité de groupes. Non, tout ce que j'ai dit sur ces plans-là peut être contredit et je serais nullement fâché si c'est contredit, parce qu'au fond, ce ne sont que mes impressions. Pour la culture, je pourrais être rapide ici, eh bien, on renote, mais ça c'est assez tendanciel parce que ça commençait déjà il y a 20 ans, mais maintenant c'est encore plus fort. Mais vu que vous êtes ici un enseignant, il faut le dire, le refus de l'école, le refus de la culture ancienne, le refus de tout notre héritage culturel, ça prend maintenant des allures de masse effroyables. Il suffit d'aller au musée pour voir les bobines profondément ennuyées de tous ces gosses qu'on amène de force voir le chef-d'œuvre de l'art antique, et bien on comprend qu'il y a quelque chose ici qui personnellement m'attriste, parce que moi j'adore la vieille culture, mais... Ça, il y a un problème ici qui me paraît très intéressant et assez douloureux. Est-ce qu'on peut dire qu'à la place de ça, il y a quelque chose de positif qui apparaît? C'est leur engouement pour la technologie. C'est sûr que ces gosses sont nés dans une époque où les progrès techniques sont exponentiels par rapport aux progrès techniques qu'ont connus les gens de ma génération. Et c'est sûr qu'ils vivent ces progrès comme quelque chose de naturel, comme quelque chose qui ne provoque plus leur émerveillement, comme quelque chose qui va de soi. Alors que pour nous, chaque progrès était un émerveillement. Moi, je me rappelle, quand j'ai vu les galalites et les basiliques, c'était quelque chose de fantastique. Alors que maintenant, ils voient l'homme marcher sur la lune, et ils disent, bon, je viens te montrer à la télé, moi, je préférais écouter les discours que voir l'homme marcher sur la lune. Alors, ce qu'il y a d'intéressant ici est très important pour les enseignants, à mon avis, mais je n'ai pas le temps d'en parler, mais je crois que c'est un gros chapitre, mais d'autres que moi le diront sûrement beaucoup mieux, c'est le rapport à l'informatique. Et je pense qu'ici, il y a sûrement un tuyau pour les pédagogies de demain, et il y a peut-être des moyens pour les réattirer vers la culture par une pédagogie de détour, par réveiller leur créativité, et plutôt que de se lamenter sur eux et comment ils sont décadents, essayer de les aider par les biais qui est le leur. Et ça, je sais que moi, personnellement, si je me sens vraiment ringard pour reprendre leur langage, eh bien, c'est à propos de tout ce qui touche l'informatique, où moi, je suis inhibé, bouché, bête et tout. Eh bien, quand je vois des gosses de 7, 10, 12, 15, 16 ans apprendre les basiques en 15 jours, quand j'en vois d'autres, les premiers que j'ai vus, je vous jure, vous voyez que c'est un schizophrène. Or, c'est un gosse parfaitement normal. Il m'a parlé pendant une heure de monde complètement fantastique. Alors moi, j'étais de plus en plus inquiet. Je ne savais plus où me mettre. Je me suis dit, mais ce gosse, il a l'air normal. Mais il a un délire terrible. Et puis, au bout d'une heure, j'ai compris qu'il fait avec son copain une espèce de jeu de dragons et de dogons à 747 chapitres avec l'informateur où ils écrivent même le roman. Et c'est des trucs qui sont impensables pour nous. Pour nous, quand un gosse écrivait son roman, c'était d'abord un phénomène très rare et puis un phénomène de haute créativité. Tout le monde n'est pas un flanc, tout le monde n'est pas poil de carotte. Alors qu'actuellement, ces romans informatiques, ça commence aussi à devenir quelque chose de très nouveau. Et je ne suis pas capable de vous dire s'il y a une vraie créativité ici ou non, parce que je n'ai rien compris ce qu'ils voulaient m'expliquer. Mais en tout cas, maintenant, je l'écoute. Le gosse est parfaitement convaincu que je comprends tout. Il est heureux d'avoir une oreille adulte qui l'écoute. Et moi, je ne le prends plus du tout pour un schizo. J'ai compris que c'est un gamin normal. Il est mieux ça que l'école, ça c'est sûr. Il est tout en étant un élève, ça c'est correct. La même chose, langage grossier par exemple, il est beaucoup plus facilement accepté qu'autrefois, mais ce langage grossier, il recouvre autant qu'avant la pudeur, les sentiments de nourrisson, les désarrois, et il ne faut pas trop les prendre à la lettre. Donc pour la culture, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, mais la culture, ça va aussi avec l'avenir. Là, j'ai combien, j'ai encore 5 minutes? Comment? Bon. Non, je laisserai tomber la fin parce que je ne veux pas prolonger. Alors, ce que je voulais vous dire, mais ça, c'est des choses que vous connaissez très bien, c'est la question des politiques et de l'avenir. Mais ça, c'est tellement banal que je peux passer vite. Il n'y a pas de doute que par rapport à des jeunes d'il y a 15 ans, il y a une dépolitisation effroyable. Je pense que c'est certainement la victoire de la majorité actuelle qui, au moins, elle a réussi cela parce qu'elle préférait certainement le jeune, même délinquant, même suicidaire, même drogué, que le jeune politisé. Et là-dessus, il y a un succès pour lequel il faut les féliciter. Alors, donc, il n'y a plus du tout cette espèce d'angoisse transcendante qu'avait le jeune d'il y a 20 ans, cette espèce de générosité naïve, stupide, mais qui concernait pas seulement eux, mais le reste du monde, ou, comme diraient les méchants psychanalystes, cette façon de résoudre leurs propres contradictions en aidant les autres, selon qu'on veut, ont massivement disparu. Dans les lycées, il n'y a plus de comité d'action des lycéens, les groupements gauchistes sont écrasés, et les jeunes qui veulent contester maintenant se retrouvent dans le Front National pour défendre des valeurs, disons, tout à fait ancestraux, gaulois, valkyries, Siegfried et tout ce qu'on veut. Eh bien, à côté de cette dépolitisation, qui était manifestement voulue par les establishments de tous les pays industriels depuis 30 ans, et qui a une politique réussie, et je crois peut-être, mais c'est une hypothèse, que c'est une des causes de cette dépolitisation, c'est les sentiments qui ne peuvent rien faire, les sentiments d'impuissance totale de pouvoir changer par leur action la destinée de la cité. Et puis aussi une augmentation très forte, surtout chez les garçons, moins chez les filles, de leur angoisse professionnelle et de leur angoisse de la vie. C'est évident que les 2,5 millions de chômeurs, c'est très mauvais, parce que ces messieurs nous disent que c'est très mauvais, mais c'est très très bon quand on y réfléchit tranquillement, parce que les 2,5 millions de chômeurs, ça vaut mieux que toute propagande politique de droite, aussi bien pour que les salariés se tiennent quoi et qu'ils laissent faire les patrons faire ce qu'ils veulent, comme pour que les jeunes se tiennent quoi et qu'ils acceptent n'importe quoi. Donc je pense que ce chômage qui est manifestement organisé à l'échelle mondiale dans le monde occidental, présenté par les médias comme une catastrophe volcanique, tremblement de terre et toutes sortes de bêtises et de méchancetés et de bêtises et de contre-vérités, réussit parfaitement son rôle, à la fois en amenant la dépolitisation, un réprimant individualiste sur lui-même, etc. Alors là-dessus, j'ai dit, et qu'est-ce qu'il faut faire avec, touche pas à mon pote, avec tout ça. Alors j'interroge où il y a quand même la générosité, l'antiracisme. La réponse de quelques jeunes que j'ai interrogés m'a laissé assez froid, assez refroidi, m'a dit, oh ben c'est le loup. C'est assez dur, hein, c'est le loup. Alors c'est tout. Alors ça c'est donc pour la dépolitisation. Alors je vous fais grâce de la pathologie, si ce n'est pas assez intéressant. Et ce que je voudrais terminer, c'est que j'appelais la tentative médiocre de conclusion avec Parménide et Clésias, c'est que d'où vient, quel est le moteur, d'abord est-ce qu'il y a une évolution? Eh bien je crois que c'est vraiment comme le paradoxe de Parménide. Quand on regarde de près, ça ne bouge jamais. La tortue, elle avance lentement, on se dit qu'elle n'avancera jamais. Puis quand on regarde sur 200 ans, ben, y a quand même une évolution. D'autre part, vous connaissez tous Ecclésias qui a dit « il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Et c'est évident, et certains auteurs ont fait ça d'une manière très spirituelle, en montrant qu'il y avait déjà des révoltes étudiantes qui ressemblaient à mai 68, au 15e siècle, au 14e siècle, au quartier latin. Bref, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je crois que les deux idées sont aussi fausses, c'est que c'est seulement très difficile de voir comment cette évolution s'est faite quand on est très près. Alors ce que je trouvais, et ça ne vient pas de moi, mais de la jeune fille, et je terminerai sur elle, c'est que pour elle, en fait, le véritable moteur de l'évolution des adolescents, c'est l'évolution des parents. Et elle m'a dit, ils nous ont appris sûrement autre chose que leurs propres parents leur ont appris. Et je crois que cette phrase m'a paru tellement profonde, surtout qu'elle vient d'une gamine de 17 ans, que je me permets de terminer là-dessus.